Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Toutes les femmes sont des putains, sauf ma mère qui est une sainte.
Les femmes au volant, c'est la lâcheté personnifiée.
Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc.
Et votre femme?
Comme toutes les femmes, elle n'a rien à dire.
Est-ce que les mots sexisme et discrimination raciale ont un sens pour vous, Monsieur Martinez?
Des remarques sexistes, anodines, ordinaires, qu'on entend dans les films, au sein de la famille, au cours des études, au travail, chez le médecin ou encore dans la rue. Des petites phrases lancées par des hommes et des femmes sur le sexe, le corps, la bonne façon de faire, la bonne façon d'être pour les filles et les femmes. Des paroles mises à l'écrit par un collectif d'autrices créé en 2012 qui lutte contre le sexisme et les stéréotypes de genre. Ce collectif d'autrices féministes a publié « Dans la bouche d'une fille » aux éditions Albin Michel. Astrid Toulon, qui a dirigé l'ouvrage, est l'invitée de notre rendez-vous « Tout s'explique ». On a échangé sur la parole des femmes, des diktats sociaux, de genre, des suites du mouvement MeToo. Astrid Toulon.
Je suis autrice éditrice et j'ai donc initié le collectif « Dans la bouche d'une fille » en 2012. Le collectif Dans la bouche d'une fille, c'est un collectif de femmes autour de l'écriture pour prendre conscience, pour parler de tout ce qui est discrimination des femmes, du sexisme, de toutes les expressions du sexisme et aussi du conditionnement de genre au travers de l'écriture, avec différentes actions, donc des ateliers d'écriture, des lectures publiques, des interventions en structure, le compte Instagram, et le livre aussi qu'on vient de publier aujourd'hui aux éditions Albin Michel.
Le livre qui s'appelle « Dans la bouche d'une fille ». On va parler dans cet épisode de la parole et notamment du mouvement de libération de la parole des femmes contre les remarques anodines jusqu'aux violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, quelles sont les suites de ce mouvement MeToo?
Bon, il y en a plusieurs, hein, évidemment. Tout d'abord, MeToo, il s'inscrit dans une époque. Je pense que c'est une évolution aussi de la société, que je raccorde plus à voilà, une dernière dizaine d'années. En France, en tout cas, un peu le premier élément, c'était aussi l'affaire DSK. Je pense qu'il y a eu donc un premier point, c'est le changement des représentations des agresseurs. Et c'est vrai qu'avant toute cette période, il y avait un peu une représentation qui était très classiste, souvent raciste aussi, de l'agresseur, souvent un peu... de banlieue, etc. Et là, depuis les affaires, on a vu que les agresseurs, en effet, pouvaient être des hommes de pouvoir en costume cravate, blanc, mais aussi des artistes, des intellectuels. Donc, ça a changé un petit peu ce rapport-là. Et puis, ça s'est étendu aussi, évidemment, aux violences conjugales, où il y avait aussi un petit peu des représentations comme ça de classe. Et on a vu qu'on a dépassé ça ces 10 dernières années. Et évidemment, la deuxième chose du mouvement MeToo, c'est qu'on est parti d'une affaire publique. Et tout le monde s'est approprié ça pour parler de son histoire, etc. Et en effet, c'est là qu'on peut dire une libération de la parole. La parole qui avait toujours été là, hein. C'est vrai que du coup, on travaille là-dessus depuis 2012, avant MeToo, et il y avait déjà beaucoup de choses mises en place, des ateliers d'autodéfense en non-mixité, il y avait des groupes de parole, des écrits. Mais là, il y a eu quelque chose qui a fait que ça a été plus rendu public. Et on a vu que les agresseurs pouvaient être dans la sphère privée. Au niveau statistique, c'est vrai qu'il y a plus d'agressions dans les milieux. C'est souvent des agresseurs, des gens qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus maintenant, des agresseurs dans la sphère privée. Et donc, c'est après cette libération et du coup, le fait qu'elle soit plus entendue. Là, on est toujours là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des sujets comme le consentement, par exemple. C'est quelque chose qui est un petit peu... automatique maintenant, et on en parle beaucoup. Donc ça perdure encore, et on le voit toujours aujourd'hui.
Vous, dans cet environnement qui est écrasé par la crise, est-ce que vous pensez, ou pas du tout, qu'on parle autant ou moins de la parole des femmes? et de ce mouvement de libération de la parole des femmes.
Évidemment, les médias ont été très accaparés par la crise sanitaire, mais il y a eu malgré tout toujours les sujets qui ont été abordés. Les violences conjugales, c'est-à-dire quel est l'effet du confinement sur les femmes qui vivent des violences conjugales, tout ce qui était la charge mentale et le fait que les femmes, il y a eu des articles là-dessus, le fait que les femmes étaient en première ligne sur s'occuper des enfants, etc., mettre de plus elles de côté et que c'était plus compliqué pour elles le télétravail. Parce que en crise sanitaire, en crise en fait, on va dire, il y a un effet où on retourne dans les vieux systèmes et qu'on les remet moins en cause et on va un peu dans ce qu'on connaît. Moi, j'ai le sentiment qu'on a toujours parlé quand même de ces questions-là. Et là, ça montre qu'en fait, réfléchir sur l'expression du sexisme, etc., ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un sujet d'actualité, c'est une grille de lecture. Et qu'en fait, le système de discrimination n'est pas séparé de l'actualité de la crise sanitaire, en fait. Il s'inscrit à l'intérieur. Et ça, j'ai l'impression qu'on en a toujours parlé. Par rapport à notre activité, pendant le confinement, etc., on maintenait notre compte Instagram. Donc là, avec ce compte, on reçoit des témoignages de femmes. On a vu très légèrement une petite baisse d'intérêt, on va dire, dans ce qui est like, vue, messages, etc., au tout début du premier confinement. Mais très vite, les choses se sont remises vraiment au rythme habituel. Et on a vu justement d'autres questions qui sont venues. Et on a vu que la crise sanitaire venait apporter un autre regard sur, par exemple, les injonctions liées au corps. Donc, on a eu tout ce qui est « je ne me maquille plus, je ne m'épile plus, je ne porte plus de soutien-gorge ». Et on a vu aussi tout ce qu'on subissait en tant que femme comme injonction, c'est-à-dire qu'il y a tout de suite eu « les femmes vont grossir, les femmes vont ressembler à des sorcières, elles n'ont plus leur coiffeur ». Donc, on a vu aussi toute l'expression du sexisme. Et puis, plus récemment, hors confinement, il y a tout ce qui est couvre-feu, avec les femmes qui nous témoignent de la peur si elles doivent sortir au-delà du couvre-feu où les rues sont désertes, par exemple. Donc là, on voit bien que finalement, c'est en lien avec ce qui se passe aussi. C'est pas des sujets qui sont séparés.
Sur la forme, quel intérêt d'utiliser le « tu » dans les phrases qui sont relevées dans votre livre, dans la bouche d'une fille ou sur la page Instagram ?
Le choix de cette forme a été dès le début, dès les tout premiers ateliers d'écriture, etc., que j'ai lancé en 2012. C'était le « tu », il sert… C'est une technique d'écriture, on va dire, pour faire une adresse au lecteur. Ce « tu », il permet autant aux femmes de se projeter, évidemment. Et c'est aussi des moments où on se parle à nous-mêmes, on peut se dire « tu ». Mais c'est aussi une adresse aux hommes. C'est une technique aussi pour qu'ils puissent se projeter. Parce que c'est vrai que même certains qui ont conscience des choses de façon intellectuelle, ils ne le vivent pas, donc ils ne peuvent pas le ressentir. Et c'est vrai que le « tu », et le livre, il permet ça, en fait. Il permet que les hommes puissent se projeter au niveau émotionnel. Et au-delà de ça, la nécessité du témoignage, c'est essentiel, quoi. Donc là, c'est vraiment un livre qui part du vécu. Donc le but, c'était de noter toutes les situations où on se dit « je le vis parce que je suis une femme », toutes les situations qui nous ramènent à notre condition de femme, et également les pensées. Donc, je pense ça parce que je suis une femme. Donc c'était, je pense que c'est une base. Partir du vécu, du réel, de ce qui aussi nous rassemble dans ce vécu. Et du coup, ça en fait un livre qui est très accessible. C'est-à-dire qu'il y a une démarche féministe, on va dire, dans le projet, mais il est lisible aussi par tout le monde. Ça permet à chacun et chacune de mieux se rendre compte des enjeux.
Pourquoi le choix d'un collectif de femmes déterminées, comme je le lis sur la couverture de ce livre, plutôt qu'un essai d'une grande autrice, d'une grande témoin pour parler de ce sujet?
Le but du livre, c'est vraiment donc de faire une vue en couple de tous les endroits et toutes les façons dont s'exprime le sexisme et le conditionnement de genre. Du coup, le but, évidemment, c'était de varier les témoignages, puisque c'est plus riche, plus intéressant et plus aussi réaliste de montrer des témoignages donc de femmes de tout âge, de tout milieu, de toute expérience, de plein de vécus. Ça permet de mettre en lumière, par exemple, toutes les doubles injonctions qu'on vit intrinsèquement chacune, mais là, qui est encore plus mise en lumière, si vous voulez, par les différentes voies. Il ne faut pas être trop grosse, il ne faut pas être trop mince, il faut avoir une sexualité libérée, mais pas trop quand même. En multipliant, justement, les témoignages, on se rend mieux compte de ça. Et puis aussi, il y a aussi différents points de vue dans le livre. Et il y a des personnes qui viennent de partout et aussi qui ont des positionnements différents C'est-à-dire qu'il y a clairement des personnes qui vont se dire féministes et qui ont écrit dans cette démarche, mais il y a aussi des personnes qui ne se disent pas féministes. Et là, le but, c'était de trouver des points de rassemblement de notre vécu en tant que femme, de notre condition de femme, en mélangeant des points de vue différents et, par rapport à ce sujet-là.
Merci à Astrid Toulon pour cet échange. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr. Vous pouvez nous écrire à audio@20minutes.fr pour nous envoyer des commentaires, des critiques, des idées d'émissions. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.